Ma femme, elle est suisse. Hein.
Voilà, il y a 600 années, non, même plus que ça, 600 années avant Jésus-Christ, à Jérusalem, il y avait un homme qui s'appelait Habacuc. Hein? Et donc, moi j'ai fait connaissance à Habacuc cette semaine, hein, parce qu'il a laissé un petit livre qui s'appelle le livre d'Habacuc. Voilà. On voit que Jacques est un théologien. Et donc là, en lisant, en parlant avec Habacuc, ou en étant communion avec son esprit par le Saint-Esprit, il m'a dit, voilà, Robert, je veux te donner un cadeau. Et tu veux me donner un cadeau? Oui, pour t'aider à marcher tout le long du chemin en 2014. Il dit, d'accord, je veux ce cadeau. Et après, il dit, tu peux donner si tu veux, tu peux partager ce cadeau avec l'église dimanche. Et donc, voilà, on verra tout ça. Et donc, je vais laisser ça comme ça, vous pouvez contempler. Voilà, je vends la Bible. Bon paradoxe. Hein. Mais allez, on va voir Habacuc. Hein. Et donc, il y a trois parties de ce que je vais partager. Hein. Il y a la partie question. On va commencer avec des questions. Et après, il y a la partie action. Et après, on va terminer avec la partie célébration. D'accord? Action. Non. Question, action, célébration. Donc, allez, on va ouvrir Habacuc avec des questions. Parce que je pense que la vie, quand on marche un peu, il y a beaucoup de questions dans la vie. Et Habacuc, il commence, tu sais, il vivait dans un temps où vraiment c'était difficile. Parce qu'il y avait les Chaldéens ou les Babyloniens qui envahissaient le peuple de Dieu. Après toutes les promesses, vous savez, les Babyloniens, ce n'était pas un peuple gentil. Ils étaient païens, mauvais, ils mettaient un... Bon, je ne vais pas dire tout ce qu'ils faisaient parce que vous n'allez pas manger votre repas après. Mais ils étaient vraiment méchants, hein? Ils étaient vraiment méchants et au niveau de la moralité, tu sais, les Juifs, ils avaient la loi et tout ça, ils étaient cochers, ils voulaient la pureté, il faut lire comment ils vivaient. Et après, les Babyloniens arrivent, c'était à l'autre extrême. Et donc, d'un côté... Dieu, il a dit à Abraham, je vais te bénir, Abraham. D'accord, merci. On va être béni. Mais après, quand cette promesse n'est pas accomplie, et quand le peuple à Jérusalem est envahi par ces Babyloniens, c'est pas facile. Et donc, ça commence avec des questions. Et il dit, chapitre 1, Habacuc eut la vision. Et il commence avec une question. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Éternel? Et quelquefois dans nos vies, on vit des situations où il y a cette prière, au moins ce cri de cœur. Jusqu'à quand? Mais c'est pas juste. Mais mince alors, c'est pas juste. Regarde, il y a cette maladie, ou il y a cette situation-là. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Même on voit la France. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et ça, c'était le cri aussi de tous les martyrs en Apocalypse. C'était une grande prière qui retentissait tout le long de l'éternité. Ils étaient là sous l'autel en Apocalypse chapitre 6, verset 10. Mais ils criaient aussi, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand cette souffrance? Et après, verset 3. Pourquoi? Voilà, c'est toujours une bonne question. Mais pourquoi? Pourquoi me fais-tu voir le mal? Et regardes-tu l'oppression? Et donc là, il y a trois regards dans ces questions. Hein, on va voir trois regards. Et donc, premier regard, pourquoi me fais-tu voir le mal? Et regardes-tu l'oppression? Pourquoi tu vois tout ce qui se passe en France? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu regardes ça? Regarde, Seigneur, tu regardes tout ça. Et après, Dieu répond. Il commence à répondre à ces questions à Habacuc. Et verset 5, il dit, voyez, regardez, ça c'est le regard de Dieu, il dit, voilà, voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et dans la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux. Voilà. Regarde, il y a quand même un jugement, j'ai un projet. Et donc tu dis pourquoi, mais voilà, le peuple, il n'y a pas beaucoup d'explications, bon, on peut en trouver, mais le peuple était infidèle. Et donc là, il y a un temps de jugement. Quand un pays est infidèle, on ne peut pas éviter qu'il y ait les temps de jugement. Et voilà, les Babyloniens arrivent. Je ne sais pas, hein, moi je ne vais pas faire la spéculation, mais je me demande quel Babylonien Dieu enverrait à la France s'il voulait juger la France. Je ne sais pas, bon, on peut spéculer. Hein. Mais Dieu il dit, voilà, j'ai établi quelque chose, mon prophète Habacuc. Et tu dis, pourquoi tu dois regarder ça? Et moi je dis, mais regarde encore, parce que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu jusqu'à présent. Et donc, bien sûr, moi j'aimerais bien voir un grand réveil. Voilà, la France transformée, les églises de 2000 partout. Mais en même temps, je ne suis pas ignorant. Tout en priant ça, j'ai dit, mais Seigneur, s'il y a le péché, s'il y a l'infidélité, si on est en train de perdre tous les repères, on risque aussi d'avoir des moments de jugement où ça va mal, où c'est difficile. Et donc, quelquefois, il faut vous jongler entre les deux. Et il faut être comme Habacuc aussi, il est là en train de regarder. Et après, il n'est pas content quand même avec la réponse du « c'est mon jugement ». Il dit « mais quand même, c'est un peu lourd. » Quand même, bien beau de dire « c'est le jugement ». Mais c'est... Et donc j'aime bien Habacuc parce qu'il persiste. Et après, il pose une autre question. Tourner, c'est le troisième regard. Et il dit « mais quand même, Seigneur, verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Il dit, tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? Parce que quand même, c'était des vrais mauvais, ces Babyloniens. Et il y a quand même le peuple. D'accord, on a péché. D'accord, il y a des manquements. Mais quand même, tu peux regarder tout ça. Comment tu peux regarder tout ça, Seigneur? Et là, c'était 600 années avant Jésus. Mais quand on voit l'histoire du peuple juif, c'est quand même tragique. Ils ont souvent été engloutis. Souvent engloutis par des méchants. Par des vrais méchants. Quelquefois, c'est l'histoire de l'Église. On voit des choses atroces, des persécutions dans certains pays. Mais pourquoi tu regardes ça? Moi, j'aime bien les questions. J'aime bien les questions. Donc c'est laissé un peu comme ça, il y a un certain mystère, parce que voilà, il y a le jugement. Et donc ça c'est de la partie question. Donc pauvre Habacuc, il est laissé avec ses questions. Pourquoi Seigneur quand même? Même d'accord, je sais que tu fais un projet, tu vas bouleverser des nations, tu es en train de changer l'histoire. Mais quand même, comment est-ce que tu peux voir le mal? Comment est-ce que tu peux supporter de regarder l'oppression? Pourquoi tu regardes les traîtres? Et après... il passe à l'action quand même. Et il y a une seule chose à faire. Il ne faut pas trop poser. Il y a un temps de poser des questions, mais un temps d'arrêter de poser des questions. Il y a un temps d'action. Et là, ça commence en verset 2. Et il dit, je vais prendre mon tour de garde. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter la littérature des témoins de Jéhovah. Hein. C'est, je vais prendre mon tour de garde. Je vais me... tenir sur le rempart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va prier. Il va chercher quand même Dieu. Il ne va pas dire, voilà, je n'ai pas eu une réponse satisfaisante au sujet de pourquoi la souffrance dans le monde, pourquoi l'injustice, pourquoi les méchants triomphent et les innocents souffrent. Je ne vais pas rester borné, tournant en rond dans toutes ces difficultés. Je vais passer à l'action. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, quelquefois. Juste dire, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Mais une chose que je vais faire, je vais me prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Il continue une conversation avec Dieu. Et Après, l'Éternel lui dit quelque chose d'assez extraordinaire. C'est souvent un passage qui est souvent mal cité hors contexte, mais quand même. Il dit, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. C'est verset 2, hein, chapitre 2. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme et ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et donc là, il y a deux parties de cette vision. Parce qu'il y a la partie quand même, je vais quand même accomplir, excusez-moi, mon sale devoir au travers des Babyloniens. Il y aura un jugement, je vais nettoyer, je vais quand même passer à l'action. Mais en même temps, il y a une deuxième vision, c'est que je suis avec toi et je vais quand même accomplir mes buts dans ce monde. Je vais accomplir. Israël va un jour être dans sa patrie, protégée pour toujours. Il y aura ça. L'Église va être là, établie sur la terre. Et il y a une promesse qui va s'accomplir à long terme. Parce que s'il y a une chose qui caractérise Dieu, c'est qu'il est le Dieu de long terme. Nous, on est petit terme, là. Même notre nos vies, 70 ans. Moi, j'aimerais bien vivre heureux, beau et riche toutes les années de ma vie. 70 ans sans jamais un problème en bonne santé. Mais je sais que probablement, ça ne va pas être comme ça. Parce que je suis dans un monde déchu. Je suis entouré par toutes ces fumées noires. Je vis dans un monde qui a rejeté Dieu, qui crache sur Dieu. Il y a toutes sortes de choses. Mais moi, je dois faire mon petit chemin. Et quelquefois, ce n'est pas juste. Tu dis, Seigneur, j'essaie d'être gentil. J'essaie de prier, je me lève, je prie, j'essaie de ne pas trop jurer et tout le reste. Mais voilà, pourquoi j'ai quand même pas toujours des grandes victoires? Et donc c'est comme Habacuc. Mais bon, je vais quand même prier. Et Dieu peut dire, mais tu sais, ça va s'accomplir, mes projets pour ta vie. Écris-le. Écris, c'est une vision dont l'échéance est fixée. Rien ne va empêcher que j'accomplisse ma vision sur ta vie, mon projet pour ta vie. Elle aspire à son terme, mais elle ne décevra pas. Et après, là, si elle tarde, attends-la. La patience, ça c'est une grande qualité, la patience. Mais l'attente dans l'espérance que Dieu va être fidèle à sa promesse. Et je pense pour moi, quand il parle de cette vision-là, c'est vrai, c'est l'accomplissement du jugement, mais c'est plutôt cette vision de l'accomplissement du projet de Dieu pour nos propres vies, pour l'Église, pour tout ce qu'il a. Et donc, peut-être on peut faire un moment, j'ai mis une petite flèche de verset 3, j'ai mis une petite flèche qui touche verset 14, qui est juste l'autre côté de la page dans ma Bible, parce que ça parle d'une grande vision à long terme. Et la grande vision, il dit qu'à la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Waouh, ça c'est la mission. Quel rêve. J'ai dit, mais Seigneur, à l'époque, il faut dire que Israël n'est pas mondial. Christ, le Messie, n'est pas encore venu. Et c'est une folie de dire ça, finalement, que la terre sera remplie. Là, il y a un petit coin dans l'histoire. On n'a même pas découvert les États-Unis, l'Australie, tout ça, toutes ces parties du monde. Et il dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Yahweh sera connu partout, même si les Babyloniens te bouffent en ce moment. Tu vois, moi je vais dire, il y a cette promesse. Et là, ça m'épate. Je dis, quand même, il y a toujours cette promesse long terme. Bon, bien sûr, c'est long terme. Là, on voit, c'est il y a 2006 ans. Et on n'a pas encore accompli cette promesse. Est-ce que toute la terre est remplie de la gloire de l'Éternel? L'Arabie Saoudite, Yémen, même je dirais le nord de l'île sud, là où on a notre carte, là. Est-ce que c'est encore rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer? Là, il y a tous ces avertissements à l'inondation en ce moment, les mariottes. Moi, j'aimerais bien voir ça sur le plan spirituel, que ça déborde, que les maisons soient envahies. de l'inondation de la gloire de Dieu, et que la gloire de Dieu couvre cette nation. Donc là, nous avons notre petite vision 50. Et quelquefois, j'ai dit, mais Seigneur, je suis moins 10 en ce moment, il faut augmenter à 60, parce que ce n'est pas toujours évident. Parce que quand Habacuc, on dit, mais pourquoi Seigneur? Mais là, il faut rester ferme. Et peut-être vous avez votre propre vision, votre propre promesse pour votre vie. Peut-être ça passe par des moments, je dirais, babyloniens. Mais il faut traverser, prenez votre tour de garde. Tenez-vous sur le rempart. Et après, bon, il y a Habacuc, il est très réel. Il regarde autour de lui. Et c'est toujours dans cette partie action, hein, il prie, mais il constate aussi, et il y a toute une réalité de vivre comme Lot dans un temps difficile. Et donc il y a cinq malheurs, et on va faire ça assez rapide. Il faut voir verset 6, il dit voilà, parce qu'il est là avec les... Tu sais, ça rejoint, tu sais, il y a le jugement de Babylone en Apocalypse. On voit Babylone avec cette coupe, la prostituée, le sang des prophètes, tout le reste. Et donc, bien sûr, il y a une réalité cosmique de Babylone, mais il y a une réalité aussi d'un peuple babylonien, c'est toujours l'ennemi. Mais on voit Babylone partout, on peut voir Babylone en France, hein, on peut voir Babylone dans mon propre cœur. Mais regarde ces cinq malheurs, après il constate, et je pense que c'est toute une œuvre d'essayer d'exister, de vivre, de prier, de marcher dans ce milieu de malheur. Et malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand, Seigneur? Donc ça, c'est le vol. Voilà, tout ce qui est malhonnête, le vol. Et après, verset 9. Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête afin de faire son nid sur les sommets. Et donc là encore, c'est, je dirais, toutes sortes de convoitises. Toutes les convoitises, voilà, je me profite. Tu sais, on peut voir les banquiers qui se payent des salaires énormes. Voilà, c'est tout ce profit malhonnête. Tu sais, j'ai trouvé l'autre jour, je lisais un article, que 1% du monde, il gagne plus que 3 milliards des autres. Il y a 3 milliards de personnes et 1% de la population mondiale gagne plus que 3 milliards des autres. Ça, c'est une réalité prouvée. C'est Oxfam qui a fait ça. Vous pouvez voir ça. C'est choquant. Et les riches deviennent toujours plus riches. Hein, je prêche Mélenchon ce matin, hein, mais ça, c'est... je donne pas des consignes de vote. Hein, n'ayez pas peur. Et donc, là, tout ce qui est convoitise. Verset 12, troisième malheur. Malheur à celui qui construit une ville dans le sang, qui fonde une cité dans le crime. Donc ça, c'est tout ce qui est meurtre, violence, autour de nous, les gens qui... Ah, je tape plus fort, tac, tac. Même malheur à celui qui crée une famille dans la violence, en tapant plus fort. Il y a un malheur, là. C'est pas bon. Comment est-ce que Dieu peut bénir? Non, là, c'est notre travail de veiller. Même les guerres, la Syrie, l'Afrique centrale, Jotidia qui est venu, qui a établi son règne dans le sang. Bon, il est parti maintenant, mais les chrétiens prient. C'est très réel pour certains chrétiens. Malheur! Jusqu'à quand? Et après, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton poison et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Et ça, c'est tout ce qui est la débauche, tout ce qui avilisse l'homme et la femme par une soi-disant liberté, mais qui pourrisse l'amour vrai. Parce qu'on veut tout découvrir trop vite. C'est quand j'entends qu'on veut un petit bout de chou de 10 années, qu'on veut tout expliquer. Je dis, mais écoute. Il n'y a pas un temps pour l'innocence. Pourquoi on doit enivrer? Pourquoi on doit exposer la nudité? On peut faire des cours sur le sida avec toutes les explications. Je dis, mais comment? Pourquoi on ne peut pas juste garder l'innocence? Malheur. Mais il dit malheur quand Dieu voit ça. Même si nous, on est frustrés quelquefois. Imagine combien Dieu, tes yeux ne peuvent pas supporter le mal. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire, Dieu? Oh, c'est pas grave. Tout le monde est gentil. Tout le monde est bon. Allez, alléluia. Où est-ce qu'il dit, voilà, oui, je veux taper, mais je veux restaurer en même temps. C'est ça. J'ai dit, heureusement que c'est Dieu. Mais quelquefois, nous, on a ces mêmes paradoxes en nous. On ne veut pas casser tout le monde, tuer tout le monde, juger tout le monde. Non, il faut aimer, accueillir. Mais en même temps, on ne peut pas juste laisser n'importe quoi se faire. Et donc, j'aime bien Habacuc, parce qu'il n'est pas agressif. Il est là dans la prière. Il est là dans l'action. Et ça, c'est à nous aussi. Et donc, malheur. Et après, le cinquième malheur, c'est verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. C'est l'idolâtrie. C'est la confiance en tout ce qui n'est pas Dieu. C'est l'idolâtrie qui dit, voilà, je... C'est ça la source qui abreuve ma vie, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est une autre source, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est l'orgueil, je ne sais pas, mais chacun doit servir quelque chose, même les athées, ils servent quelque chose, c'est peut-être leur propre vie, leur propre orgueil qui peut être une idolâtrie. Alors voilà, pauvre Habacuc, hein, il est au milieu de ça, ça fait partie de son action. Donc, question, action. Et donc, on ne passe pas ça, mais le but, c'est d'arriver quand même au travers de tout ça. On ne va pas faire tomber dans une sorte de déprime parce qu'il y a trop de malheur, parce que c'est vrai. Tu sais, c'est terrible. Et même avec des questions, on peut avoir vraiment la tête sous l'eau avec tout ça. Et c'est vrai, hein, c'est pas facile. Mais il termine à partir de chapitre 3, célébration. Ça c'est ce que je vais vous donner ce matin, cette célébration. C'est le cadeau d'Habacuc, la célébration. Parce qu'il est très réel, c'est pas une célébration bon marché. Ah, la pensée positive, allez, on va chanter un bon chant, on va oublier tout ça. Hey. Non, hey, ça c'est superficiel. C'est de passer par les questions. Voilà, j'actionne, je dois vivre dans cette situation de malheur et je dois prier, je dois persévérer, je vais faire ce que je peux. Et après, quand même, célébration. Et là, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Et après, il y a beaucoup de jolies prières. Accomplis dans le cours des années, fais-la connaître ton œuvre. Mais dans ta colère, souviens-toi de la compassion. Moi, j'aime bien ça. Mais dans ta colère, souviens-toi de la compassion. Après, il se tourne vers la majesté de Dieu. La majesté de Dieu. Et il y a toute une psaume, comme David écrivait, sur la grandeur de Dieu. Il essaye de tourner un peu tout en regardant le malheur, mais il essaye de voir la grandeur de Dieu, de voir dans la création, tout ça. Et après, c'est magnifique, à partir de 17, ça c'est le cœur de ce qu'il dit, de verset 17, Habacuc 3. Parce que, comment je peux dire ça? C'est pas le réveil en France, encore. Ce n'est pas le réveil. C'est pas le réveil dans notre église. Hein. C'est pas le réveil encore. On ne grandit pas énormément. Hein. J'ai vision 50. Voilà. Non, mais je vais pleurer. Oui, un peu. Un peu, ouais, un peu. Je vais dire pourquoi. Je vais questionner. Malheur. Mais je ne vais pas blâmer. Hein. Je ne blâme jamais. Il faut toujours aimer. Il ne faut pas blâmer. Il faut aimer. Et après, je vais essayer d'avoir la célébration. Je dis, mais Habacuc. Tu sais, il m'a donné un cadeau, Habacuc. Hein. Il m'a donné un cadeau. Alors là, regarde, là, verset 17. C'est aimer, pas blâmer. Mais la réalité, peut-être, de l'église en France, parce que c'est partout en France, les petites églises évangéliques. Hein. Car le figuier ne fleurira pas. Alléluia. Point de vendange dans les vignes. Alléluia. La production de l'olivier sera décevante. Alléluia. Et quelquefois on est déçu. Mais pas juste dans l'église, mais quelquefois on a fait des œuvres, on a beaucoup semé, et personne n'a dit merci, et il n'y a rien, on est déçu, j'ai même jamais encore, mince. Tu sais, je dis mince au lieu de dire un autre grand mot, mais ça va, vous comprenez bien. Mince. Et je suis déçu, et quand tu es déçu, attention, c'est là où l'ennemi veut te prendre. Il veut mettre une couche de beurre sur cette déception, sur ce pain de déception. Je profite pour un peu aigri, un peu. Voilà, c'est terrible. Moi je connais, hein, je parle d'expérience. J'ai là d'être déçu. Et moi, je suis terrible parce que j'ai une grande gueule. Et donc, si je suis déçu, paf, ça peut partir. Et même les prières sont négatives quelquefois. Mais voilà, attention. Et je suis. Et la production de l'olivier sera décevante. Allez, dis quelque chose de positif. Les champs ne donnent pas de nourriture. Ah! Le petit bétail disparaît. Les gens quittent, ils partent. Voilà, je ne veux plus. Voilà. Personne, quelqu'un ne m'a pas souri ce matin. Et donc, je ne vais plus venir. Merci. Il y a des démons dans votre église. Vous ne vous rendez pas compte que quand je viens, je me sens démonisé. C'est affreux. Et, merci. Ou je ne sais pas, c'est tout ce qu'on peut entendre. Et je vais aller ailleurs, je vais, alléluia. Mais bon, le petit bétail disparaître de l'enclos. Et après on dit, mais Seigneur, voilà. Et après, point de gros bétail dans les étables. Je dis, Seigneur, envoie-nous des milliardaires, comme ça leur 10%. Envoie-nous, monsieur le maire, comme ça. Oh. Envoie-nous des grands de ce monde. Ça, voilà, on peut, tu sais, ça serait super, voilà, tu sais. Mais il dit point de gros bétail dans les étables. Tu sais, en Corée, ils ont le gros bétail dans leurs étables. Moi ils avaient tous les grands bonnets là, ils sont chrétiens. Il y avait l'ambassadeur coréen, il était chrétien, il est venu au Château Blanc, l'ambassadeur, il y avait un chauffeur, c'était un Mercedes grand comme ça. Et monsieur le maire de Thumri, il savait pas que faire, on l'avait invité, mais il y avait ce gars qui venait de parler avec Chirac pour négocier avec Samsung et tout le reste. Et il était chrétien, il est venu pour ouvrir, on a fait une exposition de tableaux. Après, il y avait un chanteur de l'opéra qui est venu, un Coréen qui était connu, voilà. Bon, ouais. Mais bon, dans le monde évangélique français, ça va, peut-être ça viendra, mais point de gros bétail dans les étables. Et donc avec tout ça, avec nos malheurs, avec toute la réalité de non-productivité et de non-réveil, est-ce qu'on va se décourager? Et c'est là où il y a la victoire d'Habacuc. Et c'est votre victoire aussi. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Amen. C'est ce qu'on a fait ce matin. Choisis de louer Dieu. Chaque exaltation de Dieu et une victoire. Chaque fois. Et c'est encore plus méritant quand le figuier ne porte pas de figues. C'est encore plus méritant de dire, je t'exalte, Seigneur. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. C'est une sorte de sainte rébellion. Et c'est ce que nous pouvons faire. Mais moi, et c'est comme je dis, cette célébration, mais moi j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Là, j'ai beaucoup médité ça cette semaine. Je veux trouver l'allégresse. C'est pas automatique, hein, c'est caché quelquefois. C'est où? Dieu, tu as caché mon allégresse, où? Mais je veux trouver. Je veux trouver l'allégresse. Est-ce que vous pouvez dire ça pour 2014, pour votre vie? Je veux trouver l'allégresse. Je veux trouver cette allégresse dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Parce qu'on est quand même sauvés. C'est ça l'allégresse. Bon, quelquefois je suis un peu triste pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, hein, une sorte de paradoxe. Mais quand même, si je suis un peu égoïste pour quelques moments, j'ai le ciel, j'ai gagné le loto, mince, je serai avec lui en train de vivre dans son amour, son intimité pour toute l'éternité. Je m'en fous de ce qu'ils font les politiciens. Je m'en fous de tout ce qui. Parce que moi, je sais. Moi, j'ai confiance en Dieu et je l'aime. Quelle victoire! Quelquefois, il faut être un peu, pas égoïste, mais juste penser à toi, à ton salut en Jésus. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut l'ôter. Et après, il dit, l'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Donc, pour tout ça, il faut la foi. C'est pour ça, on retourne 2:4, c'est le verset le plus connu d'Habacuc, hein. C'était l'ordre de marche pour la réforme. Mais le juste vivra par sa foi. Oh, Habacuc, même avant Luther, il a trouvé ça. Et donc, le juste vivra par sa foi. Amen. J'aurai la foi de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à mon Dieu. Il faut la foi. Et après, voilà, votre cadeau. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Hein? Et donc, c'est quoi? Regarde vos pieds. Regarde vos pieds. Et donc, tu sais, la film Gravité. Tu sais, oh, les gens qui marchent sur la Lune. Vous avez vu, genre, les énormes trous. Bon, mais la poussière monte. Et je dis, quelquefois, je suis comme ça. J'ai des pieds d'astronaute marchant dans la poussière de ce monde, regardant. Seigneur, change mes pieds. Donne-moi transformation de mes pieds pour 2014. Donne-moi les pieds semblables à ceux des biches. Voilà. Et pourquoi? Pour braquer. Casser les bijoutiers, là. Non, mais c'est pour braquer ma tête. C'est pour braquer mon cœur. Allez, braque cette tête, braque ce cœur. Donne-moi la foi, Seigneur. Fais-moi violence et transforme mes pieds. Aide-moi à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Et vous savez, les biches mentent. Il y a un équilibre, il y a une beauté. C'est fantastique. Pourquoi rester dans la vallée avec les grosses chaussures d'astronaute quand on peut monter sur les hauteurs? Et c'est ce qu'Habacuc a fait dans son tour de garde. Là. Il était là, il trouvait des pieds de biche. Seigneur, rends mes pieds semblables à ceux des biches pour 2014. Et me fait marcher sur les hauteurs. Je ne veux pas marcher dans les bas-fonds, Seigneur. Je veux marcher sur les hauteurs. Et je dis ça après question, action, célébration. Ce n'est pas superficiel. Si j'avais commencé avec ça, c'est un peu superficiel. Mais ça passe, c'est l'aboutissement d'une prière. Mais c'est le cadeau que Dieu veut vous donner. Et quand vous êtes sur les hauteurs, il y a la montagne, je dirais, de la vision. Il y a la montagne, c'est la vision. Dieu, je sais qu'il va accomplir. Voilà, vision 50, Seigneur. Je reste dans mes hauteurs, en dépit de tout. Je reste sur les hauteurs de la vision. La foi. Seigneur, je refuse l'incrédulité. Je refuse des proclamations négatives. Je reste dans la foi. Nourris-moi de ta parole. Je dirais, voilà, la montagne ou la hauteur du plaisir de la vie, d'être l'exhilaration de la vie. Prends plaisir, voilà, on est en vie. Soyons joyeux, voilà, sur les hauteurs, c'est magnifique. Voilà, mange, bois. Il faut être heureux dans la vie. On n'est pas fait pour être misérable. Et donc, quelquefois, de monter, même. Imaginez vos vacances, tout le monde aime, plus ou moins, si ce n'est pas trop haut, mais être sur un lieu un peu élevé, vous avez fait c'est magnifique. Et donc prenez plaisir à la vie, goûtez à la vie. Et le troisième, le quatrième auteur, c'est juste qu'il faut faire un effort. Parce que quand même, il faut monter, mais il faut choisir de monter. Il faut choisir de dire, je quitte la vallée et je choisis. Il faut faire un effort. Mais je pense que Dieu a un cadeau pour nous. On peut marcher sur les hauteurs. Équipe-moi, Seigneur. Je n'ai pas des chaussées. Il faut, avec des bottes d'astronaute, c'est très dur de grimper des montagnes. Équipe mes pieds pour monter, Seigneur. D'accord. Rends mes pieds semblables à ce débiche. Donc on peut prier ça pour terminer. Je veux dire, voilà. Quelquefois, j'aime pas quand les gens regardent au pied quand je prêche, mais je vous donne la permission de regarder au pied. Regardez vos pieds, là, comme ça. Et je vous dis pas d'imposer vos mains, parce que comme ça, il faut. Sans prier les genoux. Mais juste dis, Seigneur, c'est prophétique, bien sûr, mais rends mes pieds semblables à ceux des biches cette année. Peut-être on peut dire, j'enlève tout ce qui est ces lourdes bottes qui me gardent dans la vallée, et je prends vraiment ces pieds de biche, que je puisse monter sur les hauteurs avec vision, avec foi. J'enlève les pieds, les chaussures de l'incrédulité, les pieds de l'incrédulité. Seigneur, je monte, et avec équilibre, avec grâce, tout est un cadeau. Et donc, Seigneur, donne-moi pour marcher en 2014, Seigneur, donne-moi des pieds semblables à ceux des biches, Seigneur, et me fais marcher sur les hauteurs, devant toutes mes questions, devant toutes ces actions dans le monde, la prière, les malheurs. Mais Seigneur, je veux avoir la célébration. Donne-moi une vie de célébration. Seigneur, donne-moi une vie qui monte sur les hauteurs. Seigneur, montre-moi la vision. Aide-moi à voir clairement cette vision de bonheur que tu as pour ma vie. Aide-moi, Seigneur, à voir combien je peux croire. Seigneur, je peux croire en te voyant. Seigneur, donne-moi de goûter le plaisir de vivre, le plaisir d'être en vie. Seigneur, d'avoir une vie abondante. Seigneur, restaure en moi cette joie de vivre. Et Seigneur, donne-moi la force de commencer ce voyage, de monter et de monter vers toi. Je veux choisir de monter sur les hauteurs en 2014. Viens au secours de ma faiblesse, Seigneur. Et merci parce que tu accompliras certainement tes projets. Et la vision ne décevra pas. Et Seigneur, toute la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Amen.